Hi, this is Maceo. Maceo Parker, the funkiest saxophone player around. Yes, I'm still here. And you're listening to Radio Compass 88.3. Stay tuned.
Mais oui, mon Dieu, mais oui, c'est lui. C'est bien lui.
Radio Campus 88.3.
TikTok, you don't stop.
Si pour vivre il faut s'écraser face à des bâtards dans ton genre, je préfère mourir droit dans mes sandalettes et la tête haute.
Nous y voilà. Tu vas devoir me tuer comme tu me l'as promis.
Très bien. Je vais aller chercher toutes les boules de cristal et quand je les aurai, je rendrai la vie à ton père.
Regarde bien. Voici ce qui arrive à celui qui brave l'interdit. À celui qui veut ressusciter les morts.
Mais c'est pas vrai, c'est un cauchemar, mais je croyais que t'étais mort, toi.
Tu vas voir, on ne me tue pas, moi, et je me venge toujours, tu le sais bien. À ton tour. Ah non, encore mort, oh non.
Après la légendaire émission Animanga, la culture pop du Japon ressuscite sur Radio Campus Orléans. De l'actu, des débats, des chroniques, des trucs plus ou moins mignons, le Kawaii Campus Club, c'est tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h.
Et on était en version enregistrée pour la première du mois d'octobre. Et c'est désormais en direct que vous nous retrouvez tous les deuxièmes vendredis du mois sur Radio Campus Orléans. Bienvenue dans le KCC et non pas le KKK, fort heureusement, en cette période bien fascisante de l'autre côté de l'Atlantique. C'est le Kawaii Campus Club, votre rendez-vous consacré au manga, à l'animation japonaise et plus généralement à la pop culture nippone. On est ensemble jusqu'à 20h. Pour parler de notre passion qui nous réunit toutes et tous, et je suis bien accompagné aujourd'hui, même si ça manque de filles et de femmes ce soir, contrairement au mois dernier. Alors je suis quand même ravi d'être avec vous, Steven, Victor et Arthur. On va commencer d'abord par Arthur, puisque tu n'étais pas là lors de la dernière émission. Comment est-ce que tu vas ?
Ça va, et toi ?
Bah ça va bien, très content de te voir sur ta première participation. Comment est-ce que tu te sens avant de commencer
tes débats ? Très bien, je suis très content de parler de manga, d'anime et tout.
Ouais, alors attends, je vais peut-être booster un peu ton micro, je sais pas s'il est... parce que j'ai un peu du mal à t'entendre, à moins
c'est
que
possible.
J'ai baissé... Ouais, ou c'est peut-être mon casque qui est pas assez élevé. En tout cas, voilà, ravi de t'accueillir parmi nous, Arthur. Et pour les deux autres compères, eh bien ils étaient déjà présents... Ah non, pardon, Steven, mais non,
c'est vrai, t'étais pas là.
Steven non plus, tu n'étais pas là.
C'est moi,
j'ai des Alzheimer à 33 ans, voilà. Steven, comment vas-tu ?
Ça va nickel, bah écoute, très ravi d'être là, pour parler, pour une fois, parler autre chose que de politique. Quoique.
Ouais, quoique, des fois le manga ça peut être aussi un peu politique, hein, de temps en temps. Voilà. Et toi, du coup, Victor, toi tu étais là, c'est bon, j'ai bien imprimé dans ma tête. Comment est-ce que tu vas, toi ?
Bah écoute, ça va très bien, rien de spécial à signaler, à part que je suis très content d'être là avec vous et de faire cette émission ce vendredi de 19h à 20h.
Ok, très bien. Eh bien, on est ravis également de t'avoir parmi nous. Et donc, je vais vous faire quand même, chers auditeurs et chères auditrices, un petit sommaire de cette émission, de ce que vous allez pouvoir retrouver. On débutera par les coups de cœur du Miskatonic Shop pour ce mois-ci, des mangas à gagner à notre antenne en direct. Steven s'occupera ensuite de la chronique, on va parler vêtements avec lui. Ensuite, comme on est, pardonnez-moi l'expression, entre couilles, eh bien, on va parler d'un manga de baston, puisqu'on entretient ici ces clichés de virilité d'un autre temps, Dragon Ball, avec l'actualité du nouvel animé Dragon Ball Daima et le jeu vidéo Sparking Zero. Eh bien, on s'est dit qu'il est temps de se poser cette question. Est-ce que Dragon Ball n'aurait pas dû se finir bien plus tôt ? Et si oui, à quel moment ? Et on va conclure par un jeu, ce sera une soirée blind test pour la fin de l'émission. Kawaii Campus Club, ça démarre maintenant.
Le Kawaii Campus Club, tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h sur Radio Campus Orléans.
Et tous les mois, donc, nous vous présentons les mangas coup de cœur de notre partenaire, la boutique orléanaise Miskatonic Shop. Victor, tu es allé à la rencontre de son gérant, Gaël, qui en a choisi deux parmi les nouveautés qu'il propose. Des mangas à gagner en direct à notre antenne. On écoute l'expert nous les présenter et on vous dit tout sur la manière de les récupérer avec nous juste après.
Bonjour, bienvenue sur Radio Campus Orléans, je suis Victor, je suis en compagnie de Gaël de Miskatonic.
Bonjour à tous.
Gaël, tu voulais nous faire partager tes coups de cœur du mois, du coup.
Oui, tout à fait, du moins des nouveautés, parce qu'on a toujours des coups de cœur qui sortent, qui se suivent, mais là le but est plus de faire découvrir des nouveaux titres qui sont sortis donc ce dernier mois, et donc j'en ai sélectionné deux. Le premier, ça va être... peut-être que beaucoup en ont entendu parler, c'est Versus. Versus, c'est un manga scénarisé par Wan, que l'on connaît pour Mob Psycho et surtout One Punch Man, qui est le plus connu. On va partir sur une histoire médiévale fantastique, l'inverse d'un isekai.
Ah.
Ouais, c'est, alors dit comme ça, on se dit, voilà, mais il va nous parler de solo leveling ou des choses comme ça. Non, là, c'est vraiment un monde médiévale fantastique où là, c'est des gens qui vont venir squatter. On est du point de vue, c'est-à-dire que ça reste isekai, mais les protagonistes, eux, c'est leur monde. C'est d'autres personnes qui vont arriver. En fait, dans ce monde fantastique, les démons dominent tout, et notamment les humains qui sont plus retranchés dans une grande ville fortifiée, mais ils sentent que c'est la fin. Ils envoient plein de héros avec des compagnies type de jeux de rôle classiques, que ce soit de JRPG ou même de jeux de rôle table classiques. Et on va suivre un héros qui a, on va dire, l'archétype du héros loyal, le bon... au grand cœur, et tout le monde se fout de sa gueule d'ailleurs, à ce sujet, il est fort mais tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il est naïf. Il est accompagné d'une espèce de petit famille à côté qui fait beaucoup penser, il y a un petit côté fairy tale dans la construction, mais sans les cuisses et les boobs. Hein, c'est moins vendeur, je te l'accorde, mais c'est
plus respectueux des femmes.
Oh, voilà, c'est moins gras, c'est mieux en bouche, hein, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est au bout d'un moment, faites un hentai, quoi, arrêtez. Et le personnage est absolument insupportable, hein, par contre, l'espèce de petite... C'est un mélange entre du Seven Deadly Sins et du Fairy Tail, parce que le personnage est un peu cochon, mais en même temps, il vole, et il envoie péter un petit peu tout le monde. Et donc, les humains vont se prendre une doudoune, et d'un seul coup, au moment où... parce que ça, on a des derniers héros encore vivants, plus ou moins, où c'est un peu le dernier espoir, tout ça, débarque un portail, et débarque des personnages dans des tenues... Alors, je dirais pas que c'est Master Chief de Halo, mais... voilà, ils sont en des armures haute technologie avec des armes, des lasers, des mitrailleuses, je crois même qu'ils ont un tank. Derrière le portail, on voit une ruine d'une ville plus ou moins futuriste. Et ils gèrent les démons, mais alors, piu-piu-piu, quoi. Et ils font « Ah oui, le sort que le magicien avait fait pour appeler de l'aide a marché. » Et après qu'ils détruisent tous les démons, les mecs enlèvent leur casque et disent « Ah, oh, vous êtes enfin là, on a besoin de vous. »
Ah.
Voilà. Et en fait, dans ce monde, en fait, ça va parler un peu de multivers. Et tous les multivers où il y a des humains, plus ou moins humains, parce que suivant les multivers, les humains ne ressemblent pas tous à la même chose, ils sont tous en voie de disparition.
D'accord.
Par une menace toute différente. Et ils vont devoir s'allier.
D'accord, ça marche. Donc ça, c'est le manga Versus de One.
Ouais.
Et l'autre manga que tu avais à nous présenter, du coup, c'était quoi?
Alors, on va partir encore sur un titre très simple. C'est Smile, avec un point d'exclamation.
C'est à l'origine du film d'horreur ou pas du tout?
Alors, j'ai entendu parler du film d'horreur. Il y a un... On va dire que le nom... fait penser effectivement et vers une thématique avec le sourire. Je connais pas le film d'horreur, je t'avoue. Je suis pas à la base très très épouvanté horreur, mais il y en a certains. Bah, j'adore Junji Ito et comme beaucoup et tout ce qui est œuvre de Lovecraft. Mais l'horreur pour l'horreur, bon c'est pas forcément ma tasse de thé. Smile donc c'est édité chez Mangetsu qui est assez spécialisé dans pas mal de titres. Bah, c'est eux qui ont remis au goût du jour Junji Ito en France avec la réédition de classiques. Et ils ont quelques titres un petit peu horreur tout ça. Et Smile donc est une nouveauté. Une nouveauté thriller. En fait, ça va pas être de l'horreur genre à gros gros, je suis le méchant, je suis un slasher. Non. C'est de l'horreur réaliste. C'est de l'horreur contemporaine qui pourrait exister. Où en fait, on va suivre, si on peut dire, les aventures d'un journaliste un petit peu loser qui se fait envoyer péter par son chef, son patron, un peu Peter Parker avec John Jameson dans Spider-Man. Et il dit, bon, écoute, t'as un dernier sujet à faire, sinon je te vire, ce que tu fais, c'est de la merde, voilà. Et cette personne-là, on sent que dans sa vie, c'est pas cool, quoi. Ouais, c'est vraiment pas good vibe. On a appris qu'il avait sa femme l'a quitté, apparemment il avait une fille, bon, peut-être on va savoir un peu plus après. Et il déteste les gens qui rient et sourient tout le temps. Il trouve ça vulgaire, ça le gave. Le bonheur des gens, ça le... Voilà. Il y en a des gens comme ça aussi, c'est triste. Et en fait, il va avoir quelqu'un qui... Enfin, deux personnes, deux femmes, deux vieilles femmes qui vont taper à sa porte. Il fait, oh putain, vas-y encore, c'est les témoins de Jéhovah. C'est presque ça, sauf que c'est pas les témoins de Jéhovah, c'est une autre, deux autres personnes qui disent « Est-ce que la dernière fois que vous avez ri, souri ?» Et elles ont un sourire un petit peu figé, un petit peu malaisant et malsain. Ils font « Ah, mais barrez-vous !» Voilà, c'est un truc classique. Elle fait « Non, non, mais prenez notre prospectus !» Mais arrêtez d'insister, et en refermant la porte, coince la main d'une des femmes. Alors, ça coupe pas les doigts, mais genre, la main, elle est bien... Mm-hmm. Bien, voilà. Mais et les deux se mettent à rigoler, faire « Ah, ah, mais c'est pas grave, monsieur !» Il faut rire dans la vie, ça. Et là, il fait je suis désolé, mais vous êtes flippantes, les vieilles, là. Et prenez quand même notre prospectus. Bon, il le prend, bon gré mal gré, il fait ouais, ils sont chelous, qu'est-ce que c'est pas. Et sur le prospectus, il y a une image, alors je dirais pas que c'est le gourou, mais voilà, de personnes. Et parmi elles, il y a son ex-femme.
Ah.
Et avec un grand sourire. Et sachant qu'il fait ah, c'est là donc que tu te cachais. Alors, on ne sait pas si c'est un stalker ou si c'est parce qu'il essayait de retrouver. Voilà, cette femme avait disparu à ses yeux. Et il se dit tiens, je vais contacter un vieux pote qui est devenu, alors je ne sais plus s'il est inspecteur, enquêteur, bon, un assez gradé au niveau policier, et il fait, ah voilà, je vais enquêter sur ça, et le mec lui dit, wow, fuis, ne t'arrêtes surtout pas à cette secte. Alors, est-ce qu'il dit ça parce qu'il en fait partie, est-ce qu'il dit ça parce qu'ils sont flippants, tout ça. Mais en gros, il lui déconseille fortement, il fait, mais c'est pour ton dernier article, il fait, alors oui, mais non, c'était parce qu'il y a mon ex-femme qui est dedans. Et va s'en suivre des choses sur cette secte, une enquête, une infiltration, voilà. On va pas en dire plus, parce qu'après ça spoil. Et donc c'est Smile, c'est... Attention, c'est pour les gens qui aiment les situations un petit peu malaisantes, un peu, voilà. Il y a un petit côté monster, je trouve, dans le... Alors pas dans le graphisme, mais dans le découpage et le côté intrigue. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Voilà, voilà.
D'accord, ok. Alors, merci beaucoup, c'était le Kawaii Campus Club avec Gaël de Miskatonic.
Merci, à bientôt.
Versus et Smile, ce sont donc les deux mangas que nous vous faisons gagner en direct sur Radio Campus Orléans. Les tomes 1 nous ont été fournis par le Miskatonic Shop, la boutique de mangas située à Orléans. Pour les gagner, un numéro est à appeler au cours de notre émission, c'est le 02 38 69 17 42. C'est Victor qui se chargera de prendre vos coordonnées pour qu'on puisse ensuite vous recontacter et vous remettre le manga en main propre. 02 38 69 17 42. Vous pouvez aussi retrouver le numéro de téléphone sur notre site internet Radio Campus Orléans. C'est désormais l'heure de notre chronique. Le manga et la pop culture japonaise, c'est sur Radio Campus Orléans, dans le Kawaii Campus Club. Steven, tu vas aborder un angle peu évoqué dans le manga et pourtant essentiel à la caractérisation d'un personnage, à savoir le style vestimentaire.
C'est ça. On ne prend pas assez en compte les efforts des mangaka lorsqu'ils designent leurs personnages. Moi, je trouve ça trop bien de découvrir comment les mangaka pensent les tenues de leurs personnages. Ça peut aller du choix des couleurs aux accessoires. Par exemple, je vais commencer par lui, hein, forcément, Naruto. Kishimoto, il a révélé qu'à la base, Naruto, il devait être en rouge. Parce que le rouge, au Japon, c'est la couleur des héros dans les théâtres kabuki. Mais bon, pas de peau, au même moment... Le rouge était déjà pris par le pirate au chapeau de paille.
Ah oui, voilà. Oui, donc, évidemment.
Il est passé au orange.
Notre cher Luffy.
Exactement. Donc là, c'est plus un choix éditorial qu'un vrai choix de l'auteur. Mais toujours sur Naruto, on retrouve un petit accessoire qui le caractérise bien, je trouve. Vous pensez évidemment au mini rouleau qu'il arbore sur son épaule. Tout le monde le voit un petit peu, là, la petite spirale avec le rouleau. En fait, c'est pas un rouleau, hein, c'est une anti-sèche. Et ça colle trop bien à son caractère de dernier de la classe.
D'accord, une anti-sèche.
C'est une anti-sèche. C'est... Okay. Et le style et les couleurs d'un personnage vont aussi permettre de l'identifier dans ses relations. Vous pensez à Sasuke qui, en termes de colorimétrie, est l'opposé de Naruto. Et c'est encore plus flagrant dans Naruto Shippuden, hein, parce que là, leur style carrément s'oppose. Hein. L'un est en mode streetwear, alors que l'autre est en vêtements plus traditionnels. Là, Kishimoto, il s'est servi des styles vestimentaires pour marquer l'opposition entre les deux ninjas. Dans le même genre, on a les Shinigami et les Quincy dans Bleach. Ici, les Shinigami sont en noir, avec un kimono, alors que les Quincy ont une tenue un peu plus moderne, en blanc. Ça va permettre de vraiment marquer une rivalité entre les deux camps. On peut prendre aussi l'exemple de Zoro dans One Piece. Hein. One Piece, son style à Zoro, c'est semi-pirate, semi-samouraï. Et ça marche de ouf. Ça colle à l'univers des pirates. Et ça marque aussi sa différence avec les autres, avec ses compagnons. Ça montre sa volonté de suivre la voie du samouraï, même sur les mers. Après, le design d'un personnage peut aussi servir dans l'histoire. Prenons My Hero Academia. et Macha pour les intimes. Ici, Horikoshi, il a révélé qu'il crée ses personnages en partant de leur alter, pour créer ensuite leur design derrière. Ici, les tenues.
Donc, leur alter, hein, on rappelle, c'est le pouvoir, c'est, hein, pour ceux qui ne connaissent pas My Hero Academia.
Ici, les tenues de ces personnages sont pensées au service d'un pouvoir qu'il veut mettre en avant, et qu'il veut mettre en avant dans son histoire. Ce qui est intéressant avec son travail, c'est qu'il est allé jusqu'à créer des entreprises spécialisées dans la création de costumes dans, les manga, dans son manga. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Ça, ça donne vie, en fait, à l'univers. Par exemple, Oshako et Bakugo, leurs tenues viennent de la même société qui s'identifie par deux boutons qu'ils ont sur leur tenue. Un peu comme une signature d'un artiste. Dans les databooks, il explique vraiment comment chaque tenue permet de mettre en valeur les alters. Et parfois, on a même des coups, hein, qui fait ces longs dialogues, ces longues pages de dialogue pour expliquer un petit peu comment servent les accessoires pour un alter. Donc, je trouve ça trop bien. Et sans qu'on le voie nécessairement, les accessoires permettent aussi de compenser leurs points faibles. Par exemple, Shoto, vous savez ce qu'il a dans ses trousses?
Non.
Et ben en fait, c'est des kits de soins. Ça lui permet, étant donné que c'est un héros qui sauve tout le monde, et ben en fait, il compense ce qu'il n'a pas avec ses haltères par des accessoires.
D'accord.
Je trouve que ça colle vraiment au personnage de Shoto, en plus, qui est dans cette vibe, venir en aide aux gens.
Le personnage qui maîtrise la glace et le feu, c'est ça.
Exactement.
Hein, c'est lui.
Ouais. Dans le même genre, je suis obligé de parler de Demon Slayer. Goto Oge, elle a assigné tous les profondeurs à un Gakuran. Le vêtement type des personnages de shonen en référence à l'uniforme des lycéens. Ouais, et même Shinobu et Mitsuri en portent un. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la tenue de Mitsuri, elle est ouverte au milieu, au niveau de la poitrine. Et non, ce n'est pas que du fanservice. Hein. Dans le manga, on apprend...
Ah, ce n'est pas Fairy Tail.
Non, ce n'est pas Fairy Tail. Elle l'explique dans son manga, on apprend qu'en fait, les tenues sont ouvertes devant parce qu'à la base, elles sont designées pour des hommes. Et Mitsuri, et bah, elle, un peu, ce qui colle à son caractère, elle a accepté le bail en mode un peu naïf. Alors que à côté, on a Shinobu qui a littéralement cramé l'uniforme pour s'en faire un sur mesure. Moi, je trouve trop de respect pour Shinobu. Les profondeurs ont ensuite, par-dessus, un Aori qui va soit faire référence à leur caractère, soit faire référence à leur souffle. Leur souffle, c'est leur technique, leur répertoire de technique. Ouais.
Okay.
Là, par contre, il faut connaître un peu la culture japonaise pour en choper toutes les significations. D'ailleurs, l'idée du Aori, ça colle trop bien aux profondeurs parce que c'est un vêtement léger et qui tient chaud et qui est également imperméable. Donc voilà, c'est, sur tous les terrains, ça leur permet d'être efficace. Surtout qu'ils agissent la nuit, donc le moment où il fait le plus froid. D'ailleurs, les tenues traditionnelles des profondeurs, elles contrastent aussi avec Muzan, le Michael Jackson du Japon.
Jackson du Japon, carrément.
Pour ceux qui ont la rêve. Mais ça fera l'objet d'une autre chronique.
Ouais, ça m'intéresserait. Ouais.
Goto Oge, elle voulait marquer l'opposition entre les démons et les chasseurs de démons. Et en fait, cette opposition, elle colle à l'époque dans laquelle s'inscrit Demon Slayer, un Japon qui est sujet à l'immigration occidentale. Et je voulais aussi avoir une pensée pour l'attaque des titans où Asayama a bossé avec un ingénieur pour créer les harnais tridimensionnels. Hein. Vous imaginez l'investissement de ouf pour créer cet objet devenu iconique. Et après, c'est parfois le monde de la mode qui va venir s'inviter dans le manga. Ici, là, je vais citer Nana. On retrouve plein de références à la mode, comme Vivienne Westwood dans son œuvre. L'autrice a voulu que la mode s'incarne sous plusieurs formes. On la retrouve notamment à travers deux protagonistes, les deux protagonistes, l'une arborant un style un peu punk et l'autre un style un peu plus Shibuya Girl. Mais voilà, après, pareil, la mode dans les mangas, c'est le sujet d'une autre chronique. J'aurais pu en mettre.
T'as plein d'idées, mon gars.
Plein d'idées. En vrai, les designs sont rarement laissés au hasard. Et je trouve ça cool d'éplucher les interviews et les databooks à la recherche de nouvelles explications sur le lore d'un univers. Donc, moi, je vous invite à aller creuser sur les explications de vos personnages préférés et je vous invite aussi à aller voir la page de InnoTC qui décrypte tout ça.
Ok.
Une page YouTube. Donc, YouTube, Instagram, TikTok, si j'ai pas de bêtises.
Bon, merci pour la référence. Merci pour cette chronique très instructive, mon cher Steven. Au niveau de la caractérisation un peu des personnages avec leurs vêtements, est-ce que Victor et Arthur, est-ce qu'il y a des tenues vestimentaires de personnages de manga qui vous ont vraiment marqué pour le coup?
Je sais pas trop en vrai. Alors moi tiens, on va rester dans Dragon Ball. Moi c'est Piccolo, son bonnet et sa cape. Moi je trouve ça, déjà je trouvais ça trop stylé, et puis quand j'ai appris en fait à quoi ça servait, j'étais en mode ah oui d'accord,
les vêtements lestés,
les poids, Et d'ailleurs, il en joue, c'est dans le film Dragon Ball Super, la résurrection de Freezer, je crois.
La résurrection de F, mais ouais, et puis ouais. Bien avant.
Ouais, et ouais. C'est là où je me suis rendu compte du truc, parce que peut-être avant je l'avais vu, mais je n'avais pas capté. Et puis en fait, il affronte deux soldats, et en fait, ils balancent leur truc, et les gars, ils s'écroulent parce que c'est trop lourd, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, il le montre dès l'arc Raditz, des Saiyans avec l'arrivée de Raditz, et puis il le montre aussi lors de son affrontement avec Freezer, lorsqu'il est en deuxième forme, qui lui fait comprendre qu'il ne se battait pas à fond parce qu'il avait ses vêtements lestés, et Freezer ne le croyait pas, quoi. Donc, ouais, tout à fait. Il y a un style vestimentaire peut-être qui t'a un peu marqué
dans le manga récent que j'ai vu qui m'avait pas mal marqué, c'était Frieren, Hero's Journey, Journey's End. Pardon, désolé pour l'accent.
Ouais. Un manga que tu apprécies beaucoup aussi pour sa colorimétrie, entre autres.
C'est un manga qui est absolument magnifique, etc.
Un animé, manga et la version animée qui est. Ouais.
Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dedans, c'est qu'il y avait des personnages féminins qui avaient des attirails féminins, mais qui n'étaient absolument pas sexualisés. Comme c'est une histoire de deux femmes qui vont parcourir le monde, etc. et tout, leur attirail n'est pas du tout sexualisé. Même quand il y a des mecs après qui arrivent, ça se passe plutôt bien, etc. Enfin, c'est un manga exceptionnel. Je vous conseille tous d'aller le voir ou d'aller le lire. Mais c'est le dernier truc qui m'a marqué, c'était ça.
Ok, très bien. Eh bien, merci pour vos petits retours. On va faire une petite pause musicale avant d'attaquer le gros de notre sujet, à savoir notre débat Dragon Ballesque. Alors, un nouveau choix musical d'Edouard de l'émission La Classe Internationale, qui est à retrouver, je vous rappelle, tous les mercredis de 21h à minuit sur notre antenne, le 88.3 FM. Alors, c'est un truc pas très banal, on va dire ça comme ça, de l'afrofunk mixé avec des percussions traditionnelles japonaises. C'est le groupe japonais Ajate, si je le prononce bien, ou Ayate, et c'est 10 musiciens qui performent avec leur titre Okamin. C'est sur Radio Campus Orléans, on revient dans quelques instants.
Yeah. 強くしなやかに祈り りとともに空高く空高く Yeah 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 そうはじゃてご
あじゃてあじゃてごあじゃてあじゃてごあじゃてあじゃてごあじゃてあじゃてご
C'était Okamin du groupe japonais d'afrofunk Ajate. Oui, je ne vais pas jusqu'au bout parce qu'elle est un peu longue, la musique, elle est presque à 6 minutes. Mais n'hésitez pas à la réécouter sur les plateformes d'écoute en ligne. Vous renseignez sur ce groupe parce que, mine de rien, ça donne envie de bouger, c'est pas mal du tout.
Pas mal, hein.
Ouais, moi j'apprécie. De toute façon, il est toujours de bons conseils, ce cher Edouard de la classe internationale. Je vous rappelle le rendez-vous à écouter les mercredis de 21h à minuit. Et bien, quant à nous, on reste sur notre thématique des animés et des mangas et place désormais au débat.
Le Kawaii Campus Club, tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h sur Radio Campus Orléans.
Ah, Dragon Ball, c'est un peu comme Star Wars, quelque part après le semi-échec Dragon Ball GT à la fin des années 1990. On avait fini par laisser cette Madeleine de Proust au congélateur sans y toucher, et ça semblait très bien comme ça. On replongeait avec délectation dans les 42 tomes dessinés et scénarisés par le maître Akira Toriyama, le regretté père de Dragon Ball. Et puis Internet, les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, Disney aussi, l'influence de Disney un peu avec sa marvelisation certainement, tout cela peut-être contribuer à redonner vie à la franchise avec de nouvelles créations pour le meilleur, ou je dirais peut-être plutôt pour le pire de temps en temps. Toujours est-il que la nouvelle série animée Dragon Ball Super est arrivée après un premier film d'animation intitulé Battle of Gods et l'apparition de l'iconique dieu de la destruction Beerus. Un manga Dragon Ball Super dessiné par Toyotaro est également sorti en parallèle, racontant une histoire à la fois similaire mais en même temps qui dérive et qui diffère un petit peu de ce que l'on a pu voir également dans la série animée avec sa propre interprétation. Et plus récemment donc la nouvelle production Dragon Ball Daima, très joliment animée et possédant une belle colorimétrie. Mais est-ce qu'on ne tourne pas un petit peu en rond, messieurs? Je vous laisse la parole pour commencer.
Sur Dragon Ball Super et Dragon Ball Daima.
Ouais.
Alors, honnêtement, j'ai très peu regardé Dragon Ball Super. J'ai absolument pas accroché. Enfin, pour moi, c'était le manga de trop, en fait. C'était vraiment. C'était pas possible. Alors, quand ça a été annoncé, j'étais fou. Je me suis dit, super, un retour de Dragon Ball. Un des meilleurs mangas de mon enfance, quoi. Et quand j'ai vu le début, j'ai fait « Ah non, non, ça va pas être possible. »
Qu'est-ce qui a bloqué au début?
Tout, en fait. Beerus m'a complètement dégoûté, parce que enfin, je n'aime pas du tout ce personnage. C'est peut-être pas un avis très populaire.
Non mais quoi, trop puissant qui.
Sorti de nulle part, en fait, qui vient créer plein d'incohérences dans tout ce qui s'est fait avant, en fait. Pourquoi il n'était pas là quand Boo est arrivé, enfin.
Il dormait, soi-disant.
Oui, pourquoi est-ce qu'il a même Freezer, enfin, il a appris, visiblement, il apprend après je ne sais pas combien de temps que visiblement Freezer aurait été tué, enfin.
Et apparemment, c'est lui qui donne l'ordre, qui suggère à Freezer de détruire la planète Vegeta, la planète des Saiyans d'où viennent Goku et Vegeta, notamment.
Dragon Ball Super a voulu venir expliquer des choses et je trouve qu'il l'a très mal fait.
Ouais.
Et c'est, pour moi, c'était plus du fan service et du. Et faire plaisir en fait aux amoureux de Dragon Ball, mais de façon très maladroite.
Mmh. Arthur, est-ce que tu partages cet avis ?
Je pense, ouais. De toute façon, moi j'ai une phrase qui définit, je pense, Dragon Ball Super, c'est bonnes idées, très mauvaise utilisation. Mmh. C'est. Beerus, ça peut être une très bonne idée d'avoir un personnage surpuissant comme ça, mais tu peux pas le sortir à chaque arc, à tous les chapitres. Le gars il fait copain-copain avec Goku et Vegeta. Ce qui fait qu'en fait, du coup, tu sais que même si les deux héros ils vont être à mal, ils vont être à terre, bah, à tout moment, en fait, t'as Beerus qui arrive juste parce qu'il y a Bulma qui lui a filé de la glace. Quoi.
c'est ça, oui, parce que oui. Whis, qui est l'ange qui accompagne Beerus, qui est à la fois son serviteur, mais paradoxalement qui est encore plus puissant que Beerus, oui, en fait, parce qu'il y a tout, aussi, ouais, dans tous les univers, dans Dragon Ball Super, il y a un duo. Dieu de la destruction et Ange qui sont un peu les personnages les plus puissants de chacun de leurs univers, et les deux sont tombés amoureux de la nourriture de la terre, en fait ils trouvent que c'est la meilleure gastronomie possible, et c'est juste pour ça en fait que Beerus décide de finalement de ne pas détruire la terre, contrairement à sa première idée, et au-delà de ça c'est grâce à ça qu'ils se mettent un peu à la protéger de manière indirecte, on va dire ça comme ça, ouais, voilà, ils trouvent toujours des prétextes entre guillemets pour dire oui on n'est pas là, mais bon
c'est ça, bah, par exemple le film avec Golden Freezer, enfin,
ouais, c'est ça.
Où, typiquement, ils sont là juste en observateur et ils disent non, on participera pas. Et,
enfin, ils sont pas qu'en observateur, puisqu'au final, à la fin, si la situation se résout, c'est grâce à eux en fait.
Oui, c'est parce qu'ils ont, ils sont intervenus. Ouais. Et puis, je trouve que Dragon Ball Super vient aussi un peu casser l'évolution de Son Goku et de Vegeta. À Son Goku, qui à la fin de l'arc déjà Cell, mais en plus, encore plus à la fin de l'arc Bou, qui était vraiment. Bon voilà, il avait atteint le.
Il était devenu le guerrier ultime, c'est enfin ça. Pas ultime forcément en termes de puissance, mais en tout cas en termes de sagesse, en termes de.
Un guerrier complet
ouais.
En fait.
Ouais, c'est ça,
et en fait, avec Dragon Ball Super, soit on a l'impression qu'il a régressé, et on ne sait pas d'où ça sort, soit on a cette impression que, bah, au final, toute l'évolution qu'elle a eue jusqu'avant, c'était un peu du vent et que sa véritable évolution, elle est encore à venir.
Ouais.
Et je trouve que ça tue un peu tout ce qui a été Dragon Ball Z et Dragon Ball avant. En fait.
Ouais. On va aller un peu plus dans le détail avec vous, Arthur et Steven, puisque justement vous êtes bien connaisseurs de Dragon Ball, mais je me tourne rapidement vers Victor. Justement, toi, tu es beaucoup moins connaisseur de Dragon Ball, tu l'as suivi vraiment de très très loin pour le coup, mais de ton œil extérieur un petit peu, est-ce que justement de voir continuellement des nouvelles séries arriver, Dragon Ball Super, même Dragon Ball Heroes, alors qui est une mocheté absolument abyssale en
c'est
termes
pas le pire,
de...
c'est pas le pire, enfin, après, en c'est... CGI c'est ouais. pas le pire, et... moi je trouve que quand même on a quand même un résultat assez propre malgré
non mais les Heroes tu veux dire les trucs où tu sais où ils te sortent des transformations complètement abracadabrantesques,
le film avec Son Gohan,
non, pas du tout je parlais pas de Super Heroes, non je parlais de, tu sais, Heroes, le truc dérivé du jeu de cartes.
Où
ils t'inventent des transformations hallucinantes. Alors, c'est un truc qui est pas canon. Hein,
oui, c'est pas canon, voilà. C'est pour ça.
Mais ils te sortent ce genre de truc-là, ils te sortent continuellement des nouvelles séries. Toi, de ton regard extérieur, est-ce que tu penses aussi à une espèce de marvelisation un peu de Dragon Ball ?
Je sais pas si c'est vraiment une marvelisation, parce que les suites de Dragon Ball, au final, elles commencent dès les années 90. Avec Dragon Ball Z, avec Dragon Ball GT, etc. et tout. Et en fait, moi, après, j'ai un rapport qui est un petit peu bizarre à Dragon Ball, parce qu'en gros, bah, je regardais des épisodes quand j'étais plus jeune, puisque ma sœur regardait, elles étaient plus âgées que moi et elles pouvaient regarder, du coup. Donc j'ai catché quelques épisodes. Et sinon, la majeure partie de ce que j'en connais, c'est par le genre du grenier. Donc c'est pas forcément la vie le plus éclairée que vous pouvez avoir sur le truc.
Enfin, c'est un. C'est un avis éclairé d'un certain point de vue, mais oui, voilà. Il va te donner qu'un aspect des choses, oui, c'est sûr.
Non, après, moi, ce que j'ai toujours apprécié dans Dragon Ball, entre guillemets, enfin, voilà, c'est ce que j'en ai vu et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté les combats titanesques. Les personnes qui s'envoient des montagnes sur la gueule, qui tirent des lasers super puissants, etc. et tout. Et c'est vrai que, du coup, ça se retranscrit très bien, je pense, en jeu vidéo, notamment avec le dernier jeu vidéo, la Sparking Zero, qui vient de sortir, où j'ai pas pu y jouer parce que malheureusement je suis au RSA, donc je n'ai pas de console suffisamment puissante pour pouvoir le faire tourner, mais
et puis là ça devient vraiment produit de luxe, hein, le jeu
oui,
vidéo
oui oui
on
ça,
pourra
c'est...
en reparler un jour hein,
quand t'as les consoles qui sont à 600 balles, moi c'est
non,
pas possible quoi,
t'as même pas vu la PS Pro là, je dirais tous les équipements la nouvelle PlayStation 5 Pro elle est à 1000 balles quoi. C'est un truc de
Voilà, ça me fait 2 mois de RSA sans manger, donc c'est pas possible,
n'importe quoi,
mais du coup ouais ça peut faire faire des beaux jeux de baston, et à ce niveau-là, je pense que du coup, c'est plutôt bien. Enfin, en tout cas, d'après tout ce qui vient pour Dragon Ball n'est pas forcément mauvais, parce que rien que ce jeu de baston-là, par exemple, de ce que j'en ai vu, il a quand même l'air d'être très correct et d'être très appréciable.
Oui, oui. Alors, ouais, oui. C'est pareil, j'en reparlerai à nouveau. Correct, oui, bien, avec des beaux effets spéciaux, mais alors, par contre, on est très, 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 très loin de la révolution qu'avaient représenté les vrais sparkings dans les épisodes PlayStation 2, ou les Budokai Tenkaichi qu'on a connus en Europe, parce que là, c'est une... Enfin, voilà, ils reprennent finalement le même système de combat, ils l'ont un peu perfectionné, mais sans plus, le mode histoire, franchement, est mal fagoté, vraiment. Alors, il y a les what if, il y a des scénarios, des embranchements particuliers que tu peux prendre. Ok, mais le mode histoire est tellement mal fagoté qu'en fait, quelqu'un qui ne connaît pas Dragon Ball va se plonger dedans et ne va rien comprendre.
Je crois pas que ce jeu soit fait pour,
ouais.
pour non. les.
Ouais, c'est pour la communauté. Hein, ouais,
je pense que c'est vraiment un jeu fait pour les fans. En fait.
Ouais, mais tu vois, voilà, les sparkings, les anciens sparkings avaient le mérite, en tout cas, de raconter l'histoire de manière un petit peu plus propre. C'était quand même. Puis c'était révolutionnaire pour le coup. Enfin, beaucoup plus révolutionnaire à l'époque que ça l'est maintenant. Mais bon, j'en fais un petit aparté pour le coup.
Après, tu vois, je pense que le jeu, et même de manière générale Dragon Ball Daima, c'est fait, si ça sort maintenant, c'est fait, je pense, pour attirer un nouveau public sur Dragon Ball.
Ah bah alors là, du coup, t'as pas le même avis que ce que Steven dit. C'est Steven ou Victor, je sais plus, qui disait... Si, c'est Steven qui disait que le jeu était certainement fait pour les aficionados de Dragon Ball. Oui. Toi, t'as un avis différent.
En partie, alors je pense que ceux qui sont très fans du manga vont adorer le jeu. Mais je pense que... moi, il y a un truc que j'adore, c'est tout ce qui est combat en écran splitté. Ouais. Genre la bonne soirée sur le canapé.
Ça, ça a été un des scandales du jeu.
Oui, oui, c'est un scandale du jeu. Mais ça, ouais.
Non, parce que l'écran splitté, faut savoir que l'écran splitté, en fait, tu ne l'avais pas dans la première mouture du jeu. Ouais, ils l'ont finalement rajouté en catastrophe sur l'arène la plus épurée du jeu, qui consomme le moins de ressources, pour pouvoir jouer justement en local, en multijoueur, dans ta chambre ou dans ta salle à manger avec les amis.
C'est la force de Tenkaichi.
C'est exactement ça.
Un scandale. Mais du coup, tu vois, ce qui est bien, c'est que moi, je prends par exemple le père de famille normal. Il va acheter le jeu parce que gros fan de Dragon Ball, et il va vouloir jouer avec ses enfants qui connaissent pas Dragon Ball, et qui vont vouloir absolument lire le truc parce que oh, il est trop stylé, lui. Donc, je me dis plutôt dans ce sens-là.
Ouais. Mais bon, encore, il aurait fallu avoir toutes les arènes possibles pour faire ça la meilleure des manières, parce qu'à un moment donné,
c'est un outil de promotion.
Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que oui, Daima, c'est fait pour ramener un nouveau public, un public plus jeune, parce que ça fait écho à la nostalgie des premiers fans avec Dragon Ball, donc un Sangoku jeune. Mais c'est aussi un moyen aussi d'avoir une histoire un peu plus légère, un peu plus enfantine, qui ramène justement un public qui n'a pas grandi avec Dragon Ball.
Alors après, moi, je vais bien me garder de juger, parce que j'ai vu que le premier épisode, j'ai pas voulu en voir plus, parce que franchement, les antagonistes ne m'ont absolument rien inspiré. Parce que le retour au côté enfantin, je le comprends, mais le Dragon Ball d'origine, c'était pas non plus un truc que enfantin, parce qu'à un moment donné, quand tu as un Tao Pai Pai, par exemple, qui est le premier grand antagoniste du jeu, qui assassine plus directement le père d'un des amis de Goku en face de lui, quand tu as le personnage de Tenshin Han, qui est quand même un personnage aussi qui rêve de devenir tueur professionnel et qui est assez torturé, assez sombre, quand tu as après le personnage de Piccolo Daimao, ça raconte quand même aussi des choses assez sombres pour le coup. Et les antagonistes que je vois pour l'instant ne m'inspirent pas cette même crainte que j'avais pu avoir par exemple par rapport à un Tao Pai Pai, par rapport à Tenshin Han,
par rapport à Dragon Ball Super Piccolo. Moi, je trouve que Daima a un peu plus de potentiel, un peu plus intéressant. Honnêtement, je prends plus de plaisir à regarder Daima que je n'en ai pris à regarder les premiers épisodes et même les premiers chapitres, à lire les premiers chapitres de Super.
En même temps, je pense que ça doit pas être très difficile.
Donc j'aurais tendance à vouloir dire laissons un peu de crédit à Daima, voyons un petit peu ce que ça peut donner. Et en plus, ce que j'aime bien avec Daima, c'est que ça n'entache pas justement ce qui s'est fait avant. Ça n'entache pas tout Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est justement le fait de les rajeunir, ça permet aussi de garder, de conserver ce côté. Son Goku était arrivé à la fin de son évolution. Et là, en fait, il est embarqué dans une nouvelle aventure. Mais cette nouvelle aventure, elle va être brève, parce que voilà, il n'est pas destiné à rester
surtout, on sait comment elle finit. C'est ça aussi le problème, c'est que Dragon Ball Super a eu le même souci, c'est qu'il s'inscrit avant la fin du manga Dragon Ball que l'on a vu. Oui, donc en fait, on sait qu'il n'arrivera rien à nos personnages, qu'il se passera rien. En fait, on les retrouve tous dans le dernier chapitre de Dragon Ball.
Sauf que tu vois, on n'est pas sur des enjeux énormes avec Daimon. Bon, on est sur le sauvetage du Daimakai, mais à part ça, enfin,
ça se passe justement dans un nouvel univers et ça évite de toucher en fait à tout ce qui a été fait avant. C'est pour ça que
c'est pour gonfler l'or un peu, ouais, aussi, avec ça, les démons, les dieux.
Oui, oui, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'aime bien ce, je trouve ça plutôt bien, tu vois. Enfin, pour ouais, le coup, j'ai pas d'agressivité comme je peux en avoir envers Super par rapport à pour Daima en fait.
Après, il y a pas les mêmes attentes, je pense.
Oui, ouais, c'est ça.
Super, on te vendait un truc vraiment la suite, Goku, Vegeta et tout, toute la compagnie adulte. Là, Daima, dès les premiers visuels, on savait qu'ils redevenaient tous enfants. J'y arriverai un jour.
Oui.
Donc, je pense qu'on n'a pas les mêmes attentes. Moi, j'ai lancé Daima.
Oui, comme une espèce de spin-off ou quelque chose comme ça.
Du plaisir,
un petit truc tranquille qui va un peu améliorer le lore, surtout les démons qui ne sont pas hyper bien exploités.
Ouais.
Et je vois, les méchants, tu disais tout à l'heure, ils ne t'inspirent rien. Je me dis, ça se trouve... Alors, c'est une théorie et beaucoup d'espoir. Est-ce que ça pourrait pas faire comme Boo? Bon, certes, Boo, on te vend la menace ultime et tout, et qu'au final, quand il sort, c'est Boo, quoi. C'est pas très impressionnant. Ça,
C'est vrai que Boo, donc, au début, quand il est arrivé. Bon,
Sûr que oui, tu le trouves ridicule au début, sauf qu'en fait, c'est désamorcé très vite. C'est-à-dire que tu le trouves ridicule, mais trois pages plus tard, il est plus du tout ridicule.
Oui.
Trois pages plus tard, il dégomme un personnage qui est censé être de la même puissance que Cell en quelques secondes. Quoi. Donc, Cell, qu'on rappelle, c'était l'antagoniste principal de l'arc précédent. Quoi. Donc, voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'arc, justement, je vais arriver sur la question principale de notre débat, à savoir, selon vous, où est-ce que Dragon Ball aurait pu terminer pour avoir la fin la plus cohérente, la plus parfaite possible? Moi, j'ai cité, je vois les fins d'arc en fait et les potentielles fins qui auraient pu se faire. On a notamment l'arc du 23e Budokai Tenkaichi. Budokai Tenkaichi, donc, c'est le championnat du monde des arts martiaux. C'est la toute fin en fait de la série animée Dragon Ball avant Dragon Ball Z. Donc, le grand affrontement avec Piccolo Daimao, le fils de Piccolo Daimao, pour être précis, le démon Piccolo, qui était la première menace vraiment planétaire, menacée le monde. On a l'arc Freezer aussi, avec justement une fin qui aurait pu se faire avec la mort de Goku qui meurt au cours de l'explosion de la planète Namek à la fin de leur combat, alors que Goku a éveillé ses pouvoirs de Super Saiyan et donc il passe le relais à la nouvelle génération, à savoir son fils Gohan. Cell, avec également ce même passage de flambeau mais de manière beaucoup plus appuyée, puisque dans l'arc Cell, c'est Gohan qui est présenté depuis le début de son apparition, le fils de Goku, donc qui est présenté depuis le début de son apparition comme un personnage à très très haut potentiel et qui le déploie et qui réussit à vaincre Cell. Goku se sacrifie pour sauver la Terre avant cela, et donc c'est pareil, on a ce passage de flambeau, Goku est mort, Gohan est en vie, et Gohan reprend le flambeau de la protection de la Terre. L'arc Boo également, alors qui a été un peu ajouté plus ou moins, enfin en tout cas sous pression des éditeurs, je suis pas sûr qu'Akira Toriyama voulait le faire, mais il l'a fait quand même, il est revenu un peu aux sources de Dragon Ball. Bref, on arrivait également sur un statu quo avec le fameux Goku dont tu parlais, qui est devenu un peu un guerrier complet, parfait. Et puis après, on a suivi dans Dragon Ball Super avec l'arc Beerus, avec le retour de Freezer, où tu te demandes bien s'il était vraiment indispensable. L'arc Black, donc dans le futur alternatif, qui pouvait démarrer bien, mais qui a fini un petit peu de manière extrêmement bizarre. Après, tu as encore le tournoi du pouvoir et tu as même un arc supplémentaire qui s'appelle l'arc Molo dans le manga Dragon Ball Super. Et t'en as même encore un autre, c'est l'arc Granola aussi. Oui, alors, vous passerai les détails.
Granola,
mais voilà. Granola, comme les biscuits. Ouais, voilà. C'est comme la planète végétale, les Saiyans aussi sont nommés selon des légumes. Il utilise toujours. Bref, voilà. J'ai un peu donné du détail.
Tu veux dire que ce manga aurait pu se terminer 11 fois en fait, du coup?
Oh bah oui, en tout cas, il y avait beaucoup de fins possibles, potentielles. Alors, du coup, la question à mes experts en face de moi, donc Steven et Arthur, selon vous, enfin, où est-ce que vous auriez voulu que Dragon Ball s'arrête, ou en tout cas, même si vous prenez peut-être un point de vue un peu plus objectif, selon vous, quelle aurait été la meilleure fin?
Tu veux commencer ou...
Vas-y, je vais commencer. Vas-y. Alors, moi déjà, je ne suis pas objectif, donc moi j'ai commencé vraiment DBZ avec l'arc Boo, qui était diffusé sur Game One.
Ah oui.
Donc ça, jamais on
tu
le touche.
Tu dois rien comprendre, mon gars, toi, à ce moment-là.
Non, mais je trouvais les persos trop stylés. Je t'avais raconté, moi, première image que j'ai, c'est Piccolo, au moment du tournoi, qui monte sur le ring, qui voit, je crois que c'est Kaioshin, qui est devant lui, et qui dit...
Et qui abandonne, ouais.
Ouais, et qui abandonne, mais pas juste parce qu'il a peur, c'est juste parce que, lui, il est très fort. Et moi, je me dis, mais incroyable ce personnage.
Ouais, enfin, incroyable, il a très vite après été désanctuarisé, le Kaioshin.
Oui. Bon, après, on passe les détails. L'arc n'est pas parfait. Puis après, moi, plus tard, parce que du coup, les épisodes, c'était un peu dans le désordre, donc j'y comprenais encore rien. Vegeta qui se sacrifie, j'étais en mode, waouh, trop bien. Donc, cet arc-là, on n'y touche pas, mais je pense qu'à la fin, ça aurait pu s'arrêter.
Ouais, donc la fin de l'arc-bout pour toi, ouais, c'était la bonne
comme
fin.
Steven dit, c'est le Goku guerrier parfait, enfin parfait, ouais, non, mais guerrier accompli.
Oui,
ouais,
c'est ça, qui n'a plus rien à prouver.
Moi, j'ai un petit peu de mal parce qu'il a lancé des pistes dans cet arc-là qui n'ont pas abouti, c'est-à-dire la piste du Gohan, le fils de Goku, donc, qui révèle son vrai potentiel avec sa rencontre avec le Dai Kaioshin. Ouais. Et au final, tout ça pour que Gohan se fasse absorber et que ce soit à nouveau Goku qui reprenne encore le relais avec Vegeta, le retour encore des papilles, alors que justement, le propre du truc, c'était peut-être le passage de flambeau.
Je suis allé un peu, pour préparer l'émission, je suis allé un peu creuser les interviews d'Akira Toriyama. Je suis allé un petit peu prospecter et déjà entre l'arc Freezer et l'arc Cell, ça n'aurait pas pu se terminer là. Parce que en fait, déjà, il n'avait pas prévu initialement, il n'avait pas prévu ça comme ça. Et en fait, l'arc Freezer laissait quand même beaucoup de questions en suspens. On avait Gohan qui ne maîtrisait pas encore son plein potentiel. On avait Krillin et toute la Z-Team qui était morte, en fait. Et donc, est-ce qu'on terminait sur la mort de toute la Z-Team avec seulement Gohan qui partait ? C'était pas une fin qu'il souhaitait. Donc, si on considère que c'était uniquement après qu'il ait ressuscité Krillin et que Son Goku soit mort sur la planète Namek, ça n'aurait pas fonctionné parce que dans ce même chapitre où tu as la résurrection de Krillin, tu as aussi le retour de Freezer. Donc, dans le même chapitre. Donc, ça n'aurait pas été possible de... Donc non, il était...
D'ailleurs, ils avaient prévu de ressusciter Goku en même temps que Krillin. Et en fait, c'est quand ils veulent les ressusciter tous les deux en même temps qu'ils se rendent compte que le dragon leur dit que Goku est toujours en vie.
C'est ça. Et donc, en fait, ça, il avait prévu son arc Cell.
Ouais.
Donc, la fin de l'arc Cell aurait pu être la fin de Dragon Ball.
Il a été un peu critiqué parfois sur son côté Terminator et son côté voyage temporel qu'on n'a pas trop compris parce que dans les voyages temporels, en temps normal, t'as le continuum espace-temps où quand tu reviens en arrière, tu modifies le futur.
Ah non, ça c'est faux.
En tout cas,
dans
Marvel, il l'explique bien.
Dans Marvel, c'est bien expliqué. Si jamais tu changes le passé, ça devient ton futur.
Dans Dragon Ball, c'est pas le cas. Dans Dragon Ball, en fait, quand tu retournes dans le passé et que tu changes un truc, tu crées un univers alternatif. C'est-à-dire que quand tu reviens dans ton futur à toi, et rien n'a changé. Par contre, tu as créé un futur alternatif. Tu as distorsé le temps.
Okay. Voilà. Oui, donc c'est quand même mieux que dans Retour vers le futur.
Et c'est pour ça que dans Dragon Ball, en fait, tu as 4 ou 5 lignes temporelles en fait différentes. On n'était même pas encore entré dans le concept des univers après différents dans Dragon Ball Super.
Oublie-moi sur Dragon Ball Super. Pour moi, ça n'existe pas.
Mais en tout cas, voilà. Malgré ces parfois.
Mais voilà. Mais il n'empêche que dans une interview, il a expliqué que il a voulu faire de Gohan le protagoniste principal, sauf qu'en fait l'arc-bout commence avec Sangohan et en fait il s'est rendu compte que Sangohan ça lui plaisait pas, en fait, en tant que protagoniste principal il ne lui plaisait pas, et donc c'est pour ça qu'il et là par contre il l'avait pas prévu, mais il a fait revenir Goku parce que en fait il arrivait pas, en fait, avec Sangohan à avoir son protagoniste, et donc
il était
pas prévu.
Après il y a les éditeurs aussi qui ont peut-être un peu poussé,
mais ils avaient poussé pour une suite à l'arc Cell, et en fait il a fait cette suite et il a voulu la faire avec Sangohan à la base, mais en fait voilà, Sangohan ne lui plaisant pas, il a fait revenir Sangoku très rapidement d'ailleurs, et en fait il avait prévu de conclure une fois lancé, il avait prévu après l'arc bout de s'arrêter. Donc pour moi, effectivement, si on suit le manga, logiquement c'est là que devrait s'arrêter avec l'arc bout.
L'arc-bout. Donc tous les deux, vous êtes d'accord sur le fait que le manga, la fin parfaite, c'était la fin du tome 42. Ouais, on ne change rien à ce qui est.
En plus, ça finit sur le tome 42, c'est plutôt bien.
Pourquoi ?
Parce que c'est la réponse à la question universelle. Tu connais pas ça ?
Non, je connais pas. Non.
Dans Les Aventuriers, le guide du voyageur intergalactique, à un moment, il crée une intelligence artificielle super intelligente, etc. et tout, et il lui demande c'est quoi la réponse à la question ultime, et elle met des milliers, des milliers, des milliers d'années, et à la fin, elle dit 42.
D'accord. On va parfait.
Bon, voilà.
Nous raccroche là, parfait.
Fin du débat. Ouais, ça arrive là, 42 tomes, c'est parfait.
Désolé, je vais ajouter quand même mon petit grain de sel, moi, pour le coup. Moi, je trouvais que justement, dans le grain de sel, eh bien, c'est l'arc sel. Voilà. Je trouve le plus cohérent en termes de fin, parce que justement ça n'amène pas Akira Toriyama à aller prolonger le personnage de Gohan s'il le sent pas forcément, mais le message il y est, passage de flambeau, le fils a dépassé le père, il est devenu plus puissant que son père, il a protégé la Terre, maintenant c'est sur ses épaules que, ah oui, mais que vient le fardeau. Voilà.
L'arc Cell aurait fait une très bonne conclusion à Dragon Ball. Ouais. Mais voilà, après, il voilà, y a eu aussi des choix éditoriaux. Mais... ça se trouve que Akira Toriyama avait aussi d'autres idées en, fait, en tête et qu'il avait voulu les développer. Oui. Et mais voilà, il avait, après il a précisé après l'arc book, bon, il avait fini un peu avec le manga.
C'est ça. Après, mais on est toujours allé le tirer
exactement, après oui. C'est...
jusqu'à ce qu'il ne se souvienne même plus de la couleur des cheveux de Trunks, quoi.
Exactement. Trunks avec des cheveux voilà, dégueulasses.
Ah, c'est ça, dégueulasse, absolument ignoble. Juste... d'ailleurs, justement, ils t'ont bien montré cette différence entre cheveux très propres et cheveux dégueulasses dans Sparking Zero. Hein, oui, t'as les deux versions du Trunks, bizarrement, je préfère prendre l'ancien.
Non, mais Trunks avec ses cheveux mi-blanc, mi-mauve, ça me va très bien. Me changez pas Trunks, le Trunks, de toute façon, il n'existe pas. Partons de ce principe. À la rigueur, Daima, je veux bien lui faire une place, tu vois. Ouais. Parce que Daima, voilà, ça n'a pas un impact énorme et ça ne. Voilà, ça va se terminer. On va avoir une grosse fusion à la fin. Moi, je pense que je préchote, hein, mais je pense qu'il va y avoir une grosse fusion avec les petites, ouais. Les petits bonbons fusion qu'il a récupéré là dans le magasin. Je pense que voilà, on va avoir ça et puis ça va se terminer sur une fusion et. Basta, ouais. On revient à notre fin avec Boo, Sangoku qui va entraîner la réincarnation de Boo.
Ouais. Eh bien, moi, juste avant de conclure aussi, j'avais une dernière chose à souligner, c'est que en plus, oui, Victor. Vas-y.
Oui, j'ai eu un message de blockchain, ils ne seront pas là, donc okay, on peut d'accord. déborder un peu si on veut.
Ok, ça marche. Eh bien, on aura un tout petit peu plus de temps pour le jeu. Bah, en même temps, on a un peu débordé aussi sur le débat. Oui. J'avais juste un petit truc à rajouter, moi, c'est que au-delà de effectivement de ces histoires de fin, en fait, moi, ce que j'aurais voulu voir au lieu de Dragon Ball Super ou d'autres continuités de ce genre, j'aurais plutôt voulu voir effectivement. Des spin-offs différents pour justement creuser le lore pour le coup, mais sans pour autant les personnages que l'on connaît, quoi. C'est-à-dire aller creuser par exemple l'histoire de la famille de Freezer, l'histoire des Tsufool et des Saiyajin par exemple.
Daima va faire ça avec l'histoire des Namek.
Ouais, mais on est toujours avec les personnages principaux, quoi, tu vois. Et moi j'aurais voulu les quitter et aller voir d'autres temporalités, d'autres choses qui ont pu construire l'univers de Dragon Ball.
On va apprendre un peu l'origine des Namek parce qu'ils viennent du monde des enfers.
Ils sont des démons. Et ça raccroche effectivement à Piccolo Daimao qui était un démon à l'origine. On comprenait pas trop la transition entre un mec et
je trouve que ça va venir, expliquer des choses de ce point de vue là.
Effectivement.
Après, est-ce que ça a été bien fait ou pas
bon, effectivement.
Ça, c'est un autre
débat. Ça marche.
Après, ce que tu proposais là, faire des spin-offs, c'était un peu les OAV finalement il y a quelques années.
C'était les specials, celui de Bardock notamment et celui du futur alternatif de Trunks, quoi, qui sont pour moi les meilleures créations originales animées de Dragon Ball encore aujourd'hui parce qu'elles sont sombres, elles ont une OST magnifique, elles ont une ambiance qui est différente en fait des autres Dragon Ball pour le coup. Moi, Bardock à vie pour moi. Et le premier, pas le deuxième, celui qu'on nous a vendu.
Comme Broly.
Exactement.
Tout à fait. Arrête là.
Exactement. Allez, 19h52, on va conclure notre débat avec une dernière petite pause musicale avant de faire notre jeu. Ce que je vous propose, eh bien, je vous le donne en mille, c'est un opening de Dragon Ball Z. On se l'écoute et on revient juste après.
Le troll.
Oups, pardonnez-moi, j'active mon filtre anti-générique de merde avec tout mon respect pour la regrettée Ariane. On va se passer le vrai opening de Dragon Ball Z. Voilà, tout de suite ça va mieux, mes oreilles ne saignent plus. Chala et Chala avec Hirodobu, Kageyama au chant, c'est la version courte. Et on revient dans moins de 2 minutes. パノラマ過去発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいね Ah! de retour pour la dernière ligne droite du Kawaii Campus Club. Steven, t'avais quelque chose à dire?
Je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à la conclusion de Dragon Ball et avec Sangoku. C'est que, je sais pas si vous vous souvenez, mais Sangoku, sur ses tenues, il a un symbole.
Ouais.
Il a toujours un symbole. Oui. Et en fait, qui représente ses différents maîtres.
Exactement.
Et à la toute fin, il n'a plus du tout de symbole. Mmh. Pourquoi? Ouais. Parce qu'en fait, il est devenu son propre maître.
Exactement. Ouais.
Et, c'est, oh,
et,
ouais. Voilà.
Et reprend des symboles dans Dragon Ball et Super. C'est pour ça que c'est une régression.
C'est pour ça que ça ne fonctionne pas.
Encore une fois. Voilà. Eh bien, c'est parfait. On va conclure donc bientôt cette émission. Mais avant, le petit jeu quand même. Ouais, on ne va pas se quitter sans s'amuser.
Le manga et la pop culture japonaise, c'est sur Radio Campus Orléans, dans le Kawaii Campus Club.
Allez, petit blind test, je vais vous passer quelques extraits d'opening et d'ending et le challenge, c'est de trouver tout simplement l'anime duquel il est tiré. Je vous demande pas les artistes ou le nom, évidemment. Mmh. Voilà, on commence tout de suite, sans perdre de temps. Premier extrait. Ça sent le old school, ça.
Ouais, de fou.
Non,
c'est pas Ranma.
Mais c'est dans les mêmes époques, ouais.
Ouais, c'est dans
Lucie l'amour et rock'n'roll.
Non.
Cat Eyes.
Hein, alors, tu es pas loin.
Nicky Larson.
Ouais. Ah, City Hunter, pour être précis.
City Hunter, oui.
Ouais, c'est ça. Ouais, parce que Nicky Larson, c'est un autre générique hein, en français.
Oui, c'est vrai.
Steven, un point pour Steven, du coup. On va passer au deuxième. Allez, celui-ci. C'est un ending.
Ouais.
C'est Full Metal Alchemist, ouais. La première.
Ah putain, bah j'avais
toi le grand fan de Full Metal Alchemist, Victor.
Ouais, mais moi je te dis, moi je zappe les intros et les endings.
C'est ça, tu les skis.
C'est honteux.
Tu les skis. Bon, c'est honteux, non, après, hein, je comprends, hein, on veut pas perdre de temps. Hein. Eh bien, deux points pour Steven à présent. Troisième extrait.
C'est My Hero Academia.
Oh, Academia. Bien vu, ouais. Ah bah, c'est un carton. T'étais pas loin, Arthur, ouais, hein, je pense. T'avais été un peu moins, t'as été un peu moins réactif, mais c'était pas loin. Effectivement, My Hero Academia, pour être précis, le troisième opening. Enfin, l'opening de la troisième saison, pour être précis. Ensuite, on va passer à celui-ci.
Évangélion.
Effectivement. Oula, je l'ai arrêté, mais j'aurais pu le continuer un peu.
On peut partout là.
Ah, bon, franchement, je suis le juge arbitre. Il a eu un dixième de seconde plus tôt que toi. Vraiment. Okay. J'ai entendu d'abord venir de lui.
Je te le laisse.
Allez. Ouais, je le laisse quand même là, un peu ici, là, voilà. Ouais, opening mythique, ça aussi, voilà. T'as un animé non moins mythique qui a révolutionné un peu.
Quand j'étais petit, j'étais amoureux de Misato-san.
Oui, Misato, effectivement, oui. Je vois très bien.
C'est
ouais. Ensuite, j'en ai plusieurs, hein, Tiens, je vais mettre celui-ci.
L'attaque des titans.
Ouais, l'attaque des titans.
Film de Kyo Kyojo.
Exactement. Alors pour être précis, c'est
l'un des derniers.
C'est un opening, ouais, voilà, l'un des derniers openings. Ah ouais, ouais. The Rambling. Ouais.
Le moi, 3, je connais Essen, Virgin DS, Narvisin, Deyeg.
Ah oui, c'est le premier, ça.
Ouais, c'est le tout premier. Ouais.
Moi, je crois que j'ai que les 4 premiers, mais là, celui-là, non, je l'ai.
Ouais, ouais, ça, c'est sur la saison finale. Hein.
Ouais, exactement. Ouais.
Le tremblement, ouais. Il est 58, on a peut-être le temps encore d'en faire un ou deux.
Ouais, on voit. Hein.
Ouais. Alors, passons sur. Tiens, celui-ci.
Samurai Champloo.
Il est bien, hein, il a une bonne connaissance. Hein, lui.
Trop fort.
Ouais. Ending, effectivement, de Samurai Champloo. Alors, c'est dommage, je voulais vous donner les titres, mais dans le cartouchier là, que j'ai en face de moi, là, il s'affiche pas trop.
Ah.
Allez.
Ou alors il s'affiche en japonais, c'est ça?
Ouais. Je regarde quand même le compteur, il est 58 là, ouais, j'aurais pas le temps de vous en faire d'autres. En tout cas, c'est Steven qui l'emporte largement avec 5
bien
points.
Joué. Yes.
Voilà.
Ouais, bien joué.
Victor, tu sauves l'honneur et malheureusement, ouais, mon cher Arthur, ce sera pour la prochaine fois.
Je suis toujours très mauvais sur les jeux de toute façon.
Ça sera pour la prochaine fois.
Je suis toujours mauvais, mais je crois que ma vie
tourne trop autour des mangas.
On se rend compte que mon adolescence chanson, ça tournait autour de ça.
Et oui. Donc on va conclure cette émission. Merci à vous trois, hein, Steven, Arthur, Victor, pour votre participation.
Ah, merci à toi. Merci d'avoir animé l'émission.
Bah, pas de souci, c'est toujours un plaisir. Merci, chères auditrices et auditeurs, aussi de nous avoir écoutés. On revient très vite, plus vite que prévu, puisqu'on aura notre émission spéciale en fin de semaine prochaine. Radio Campus Orléans tiendra son marathon de 30 heures consécutives de direct pour ses 30 ans. Des émissions à l'appel à partir du samedi 16 novembre à midi. Le Kawaii Campus Club fera sa spéciale le dimanche 17 novembre à 14h en direct. Et la prochaine émission ordinaire, elle se tiendra le vendredi 13 décembre. Rendez-vous
le jour de mon anniversaire.
Et ouais, c'est ça. Et bien, toujours à 19h. Place à la suite de vos programmes musicaux. Restez sur les ondes de Radio Campus Orléans 88.3 FM. Très bonne soirée à toutes et à tous.